the 45th President of the United States of America, Donald J. Trump.
Un jour dans le monde.
And God bless America.
Sur France Inter.
Et à 18h47, comme chaque lundi, direction maintenant les États-Unis, Trump à la Maison-Blanche. Bonsoir mon cher Frédéric Carbone en direct de Washington.
Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous.
Alors on le disait il y a quelques minutes, le président américain effectue donc sa première tournée internationale, aujourd'hui en Israël, après une première étape ce week-end en Arabie Saoudite. Et là Frédéric, incroyable autosatisfecit de l'administration Trump, pour qui l'escale saoudienne est un total succès, hein.
C'est vrai, l'entourage de Donald Trump n'attend même pas la fin de cette longue tournée pour publier des communiqués de victoire. Le d'habitude très discret Jared Kushner, gendre et conseiller privilégié du président américain, se félicite donc que grâce à cette étape saoudienne, le monde commence à être plus uni contre l'intolérance et le terrorisme. Il y a une forme de précipitation parce qu'il est urgent que cette tournée efface, corrige au moins en tout cas, l'impression de chaos à la Maison-Blanche après la semaine folle autour de l'enquête russe. Tous unis, tous sur la photo et tous le même discours relayé ici par Newt Gingrich, responsable républicain très proche de Donald Trump.
La réalité, c'est que les Américains sont intelligents. Ils voient un leadership historique de la part de Trump et puis ils voient des ragots dans les médias qui relaient les fuites. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est un vrai moment historique provoqué par un vrai dirigeant. Le président américain entraîne toute une région dans un nouveau partenariat antiterroriste et tous les Américains doivent en être fiers.
L'enthousiasme donc des partisans de Donald Trump et de fait cette étape de Riyad est assez généralement considérée comme un succès pour le président américain mais avec un vrai bémol exprimé dans les commentaires et par les démocrates. Aucun mot, aucun signe sur la question des droits de l'homme au milieu d'une assemblée de dirigeants souvent autoritaires. Nous ne sommes pas là pour faire la morale, a clairement dit Donald Trump. À long terme, c'est très préjudiciable, lui répond Adam Schiff, élu démocrate au Congrès.
La promotion de la démocratie et des droits de l'homme devient totalement secondaire. Et c'est une façon de renoncer à notre influence globale que de ne pas défendre ceux qui sont persécutés, mis en prison ou ne peuvent pas pratiquer leur foi. Ce serait une erreur historique que de reculer ainsi.
Voilà pour les regrets démocrates, mais on l'a bien compris, en Arabie Saoudite hier comme en Israël aujourd'hui, un des objectifs prioritaires de Donald Trump, c'est bien de montrer que l'ère Obama est bel et bien révolue.
Et ça, on l'a bien compris, hein. Et pendant ce temps-là, aux États-Unis, Frédéric, eh bien, les républicains continuent de se déchirer, soutenir ou ne pas soutenir Trump.
Effectivement, parce que tous les républicains espèrent que cette semaine de voyage à l'étranger va offrir un répit dans la tourmente, mais les soupçons d'obstruction de justice de la part de Donald Trump, la désignation d'un procureur spécial, tout ça a clairement donné une nouvelle ampleur à l'enquête russe. Et si vous avez pour le moment un seul élu républicain qui parle ouvertement de risque de destitution, tous expriment leur frustration que les dossiers qui concernent directement les Américains, santé, impôts notamment, n'avancent pas et ils veulent que la vérité éclate. Quelles qu'en soient les conséquences, voici Marco Rubio, sénateur républicain de Floride.
Si un président essaie de manipuler une enquête en intervenant auprès du FBI, c'est plus qu'un problème, c'est potentiellement une obstruction de justice. Et il faudra prendre une décision, quel que soit le président.
Alors vous entendez les précautions oratoires, l'emploi du « si » et Marco Rubio ajoute qu'il n'a pas aujourd'hui les éléments en main pour se faire une idée. Mais ils sont nombreux à regretter que Donald Trump se contente de parler de chasse aux sorcières et il faut que le patron des républicains à la Chambre, Paul Ryan, lance une sorte de rappel à l'ordre.
We need the facts.
Nous avons besoin de connaître les faits. Il est évident que des gens veulent affaiblir le président. Et nous demanderons à M. Comey, si tout cela s'est bien passé, pourquoi n'en a-t-il pas parlé avant ?
Ça, c'est la théorie du règlement de compte de la part de l'ancien directeur du FBI et plus généralement de la part des agences de renseignement vis-à-vis d'un président américain qui les bouscule et en qui elles n'auraient absolument pas confiance.
Et d'autant que dès son retour à Washington, Donald Trump devra faire face au témoignage de James Comey, l'ex-directeur du FBI, auditionné par le Sénat.
Absolument, il a accepté cette audition en public dont la date n'a pas été fixée, mais ce ne sera effectivement pas avant la semaine prochaine. Événement très attendu, vous l'imaginez, où il sera question de ces fameuses notes dans lesquelles James Comey aurait notamment évoqué des pressions de la part de Donald Trump pour mettre un terme à l'enquête russe, en tout cas le volet concernant Michael Flynn, l'ancien conseiller de la sécurité nationale. Alors en attendant la parole de James Comey, ce sont ses proches qui s'expriment, qui racontent le malaise du directeur du FBI face au président américain, son impression qu'il s'intéressait de trop près à l'enquête, son refus de créer un lien trop personnel avec Donald Trump. Et Benjamin Wittes, un de ses proches, dément la version du président américain selon laquelle c'est Comey qui sollicitait tous ces rendez-vous pour s'accrocher à son poste.
Il n'essayait pas de sauver sa place. Quand Donald Trump dit ça, c'est juste un énorme mensonge. Il essayait de laisser Trump à l'écart de l'enquête et de protéger le FBI de Trump. Il savait que cela pouvait lui coûter sa place, et ça a été le cas.
Vous entendez l'ambiance film d'espionnage, Michael, et effectivement, vous dites que ce témoignage de James Comey sera absolument essentiel. À l'inverse, Michael Flynn, au cœur de l'enquête, fait lui valoir son droit constitutionnel pour refuser de fournir des documents et de témoigner au Congrès. En revanche, il sera obligé de répondre à une éventuelle convocation du procureur spécial.
Et pour finir, Frédéric, retour donc à ce voyage présidentiel avec le gaffeur de l'équipe Trump.
Oui, il s'appelle Wilbur Ross, secrétaire au commerce, et on l'a d'abord vu clairement s'assoupir hier pendant le discours de Riyad de Donald Trump. Peut-être était-il fatigué de la fête de la veille du samedi soir. L'image n'est pas terrible, mais le son, il est presque pire, dans le registre de revendication du grand succès de cette étape en Arabie Saoudite. Écoutez ce que disait Wilbur Ross ce matin, interrogé par la chaîne CNBC.
Ce qui m'a fasciné, c'est qu'il n'y a eu aucun signe de protestation partout où l'on est passé. Et que finalement...
Mais secrétaire Ross, c'est peut-être parce qu'il y a eu des contrôles stricts et que les gens ne peuvent pas exprimer leurs sentiments, comme c'est le cas chez nous.
En théorie, c'est peut-être vrai, mais croyez-moi, il n'y avait aucun signe, aucun appel. Vraiment, il n'y avait rien.
On en revient donc à cette question des droits de l'homme et on se dit que peut-être l'entourage de Donald Trump envie ce régime saoudien où la justice ne vient pas se pencher sur les turpitudes éventuelles des dirigeants et où le peuple n'a pas le droit de manifester ni ses inquiétudes ni sa colère.
C'est dit, Frédéric Carbone en direct de Washington. Merci beaucoup.